Chapitre 11. Quelques jours après, on sut que Bonaparte avait quitté le congrès de Rastatt, où les plénipotentiaires ne pouvaient s'entendre sur rien, et qu'il était à Paris. On voyait à la tête de tous les journaux. République française, 16 Frimaire. Le général Bonaparte est arrivé à Paris sur les 5 heures du soir. Il recevra son audience solennelle du directoire exécutif dès jeudi prochain, dans la cour du Luxembourg, que l'on décore à cet effet. Il y aura un repas de 80 couverts, etc. Et puis le lendemain, le général est descendu et loge dans la maison de son épouse rue Chanterenne, chaussée d'Antin. Cette maison est simple, petite et sans luxe. Et puis, les administrateurs du département de la Seine ayant annoncé l'intention d'aller voir le général Bonaparte, il s'est rendu lui-même au département accompagné du général Berthier. L'ex-conventionnel Mathieu l'a salué. Le général a répondu avec modestie et dignité. Le tribunal de cassation a député plusieurs de ses membres auprès de Bonaparte. Ils ont été accueillis avec égard. Le juge de paix de l'arrondissement est allé présenter ses compliments au général Bonaparte. Le général lui a rendu sa visite. Bonaparte sort rarement et dans une simple voiture à 2 chevaux. Ainsi de suite. Un jour, on voyait que Bonaparte avait dîné chez François de Neuchâteau, qu'il avait étonné tout le monde en parlant de mathématiques avec Lagrange et Laplace, de métaphysique avec Seyès, de poésie avec Chénier, de politique avec Galois, de législation et de droit public avec Donoux. Que c'était merveilleux! Qui en savait plus que tous ensemble? Le lendemain, Bonaparte avait rendu sa visite au tribunal de cassation. Il était arrivé à 11 heures avec un seul aide de camp. Tous les juges réunis en costume l'avaient reçu dans la chambre du conseil. Il en savait aussi plus que tous sur les lois. Après cela, venait la grande réception du Luxembourg. Les coups de canon ouvraient la fête. Le cortège des commissaires de police, des tribunaux de paix, des 12 administrations municipales, de l'administration centrale du département et de 50 autres administrations se mettait en route pour aller le prendre et l'escorter. Commissaire de la trésorerie, commissaire de la comptabilité, tribunaux civils, tribunaux criminels, Institut national des sciences et des arts, état-major, qu'est-ce que j'en sais encore? La musique exécutait les airs de la République. Et puis, la peinture du cortège en marche, de sa route, de son arrivée, de l'hôtel en demi-cercle sur un vaste amphithéâtre, des drapeaux et des trophées, des cris d'enthousiasme, le discours du ministre des Relations extérieures Talleyrand Périgord, le ci-devant évêque d'Autun, membre de la Constituante qui, dans le temps, avait dit la messe au Champ de Mars et sacré les évêques assermentés malgré le pape. Enfin, un vrai farceur. Ensuite, le discours de Barras, qui parlait de Caton, de Socrate et d'autres anciens patriotes qui lui servaient de modèle. La réponse de Bonaparte, les chants guerriers, etc., etc. Pauvre diable de Maillancet! Pauvres généraux des armées du Nord, de Sambre-et-Meuse, de Rhin et Moselle, des Pyrénées, de la Vendée, de partout. Quelle quantité de combats, de batailles vous aviez livrés en 92, 93, 94, 95, dans des occasions terriblement plus graves, plus dangereuses que celles d'Italie. C'était vous pourtant, oui. C'était nous tous qui pouvions nous glorifier d'avoir 20 fois sauvé la patrie et de l'avoir sauvée au milieu des plus grandes souffrances, sans habits, sans souliers, presque sans pain. Et pas un seul d'entre nous, pas un seul de nos chefs, si braves, si fermes, si honnêtes, n'avait reçu la 1000e partie des honneurs de Bonaparte. Le pays n'avait plus d'enthousiasme et de génuflexion que pour cet homme. Ah, ce n'est pas tout de remplir son devoir. La grande affaire, c'est de crier et de faire crier par 100 gazettes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis un tel. J'ai du génie, j'envoie des drapeaux, des millions, des tableaux. Et de dresser la liste de ce qu'on envoie, des canons, des trophées, de répéter à ses soldats, Vous êtes les premiers soldats du monde, ce qui fait penser aux gens. Et lui, le premier général. Ah, la comédie, la grosse caisse, le fifre, les galons, les plumets, quelle belle chose pour entortiller les Français. Chauvel avait bien raison de dire, en lisant tout cela, « Pauvre, pauvre peuple, le plus courageux et le plus dévoué de tous à la justice, eh bien, quand on joue la comédie devant lui, la tête lui tourne, il n'a plus de bon sens, il ne voit plus où l'on veut le mener. Robespierre avec son air sombre et ses grands mots de vertu, et celui-ci avec sa gloire, sont les deux plus grands comédiens que j'ai rencontrés. Dieu veuille que la comédie ne nous coûte pas trop cher. » Chauvel comptait sur Kléber, sur Augereau, sur Bernadotte et Jourdan pour sauver la République. La mort de Hoche le désolait. Souvent, il répétait ces belles paroles de pacification de la Vendée à ses troupes. « Amis, vous ne devez pas encore vous dessaisir de ces armes terribles, avec lesquelles vous avez tant de fois fixé la victoire. De perfides ennemis, sans songer à vous, méditent de rendre la France à l'esclavage, dont vous l'avez affranchie pour toujours. Le fanatisme, l'intrigue, la corruption, le désordre dans les finances, l'avilissement des institutions républicaines et des hommes qui ont rendu de grands services, voilà les armes qu'ils emploient pour arriver à une dissolution sociale qu'ils disent être l'effet des circonstances. Nous leur opposerons la loyauté, le courage, le désintéressement, l'amour des vertus dont ils ne connaissent que le nom, et ils seront vaincus. » Oui, mais à cette heure, Hoche dormait à côté de son ami Marceau, dans un petit fort près de Koblenz, et le désintéressement, l'amour de la vertu, la loyauté ne réveillent pas les morts. Enfin, ceux d'Italie eurent tous les honneurs et les profits de notre révolution. Cette paix que la nation estimait si haut venait de nos campagnes du Rhin, bien plus que celle d'Italie, et le peuple en donnait toute la gloire à Bonaparte. Il a payé cher son injustice. C'est au milieu de ces histoires de fêtes, de dîners et de glorification d'un seul homme que se passa l'hiver. Augereau, bien ennuyé de voir qu'on le mettait dans l'ombre, cria tant qu'on lui retira le commandement de l'armée d'Allemagne, pour l'envoyer commander à Perpignan. Berthier reçut le commandement de l'armée d'Italie et Bonaparte se fit nommer membre de l'Institut à la place de Carnot, son ancien ami. Celui qui, 2 ans avant, avait approuvé ses plans de campagne, lorsqu'il n'était rien et qu'il frappait à la porte de tous ceux qui pouvaient l'aider à devenir quelque chose. On parlait alors d'une grande expédition en Angleterre, que Bonaparte devait commander en chef. Mais pour faire cette expédition, pour équiper les vaisseaux, réunir les munitions, il fallait beaucoup d'argent. Le bruit courait que ceux de Berne, en Suisse, avaient un gros trésor. On les appelait les messieurs de Berne. Ces messieurs ne nous avaient pas fait de mal, seulement les citoyens du canton de Vaud se plaignaient d'être sous leur domination, de cultiver leurs terres et de leur payer des impôts. Ces citoyens du canton de Vaud pouvaient avoir raison, mais leurs affaires ne nous regardaient pas. Et sans le gros trésor des messieurs de Berne, je crois aussi que le directoire ne s'en serait jamais mêlé. Malheureusement, il fallait de l'argent pour l'expédition d'Angleterre. Le trésor de ces messieurs donnait dans l'œil de Barras, de Roubel et des autres directeurs. Les millions d'Italie leur avaient ouvert l'appétit. C'était grave. Dans ce mois de janvier, la 75e demi-brigade, sous les ordres du général Rampon, traversa le lac de Genève pour s'établir à Lausanne. Le général Ménard la suivit avec toute une division, et les gazettes nous apprirent aussitôt que ces proclamations produisaient un bon effet. Braves soldats, la liberté dont vous êtes les apôtres vous appelle dans le pays de Vaud. La République française veut que le peuple vaudois, qui a secoué le joug de ses oppresseurs, soit libre, etc. Toute la Suisse fut en l'air. Les messieurs de Berne, de Fribourg, de Soleure, qui se doutaient bien qu'on en voulait à leurs écus, au lieu de renoncer à de vieux privilèges sur d'autres cantons, firent marcher des troupes contre nous. Ceux de Bâle, de Lucerne, de Zurich, eurent plus de bon sens. Ils accordèrent à leurs sujets tous les droits qu'ils demandaient, mais cela ne faisait pas le compte du directoire. On voulait, soi-disant, à Paris, une république comme la nôtre, une et indivisible, sans cantons séparés. Le général Brune, connu par ses actions d'éclat en Italie, remplaça Ménard au commandement et se mit à marcher. Alors tous les cantons, excepté celui de Bâle, se réunirent pour arrêter notre invasion. Les commissaires du directoire, les réquisitionneurs, les fournisseurs passaient à la file chez nous, avec des troupes en masse. Cela donnait au pays un mouvement extraordinaire. Le commerce n'avait jamais si bien été. Les Suisses se défendaient comme de véritables enragés, surtout les insurgés des petits cantons, tous fameux tireurs et connaissant leur pays à fond. Mais on entrait chez eux de deux côtés, à la fois par Bâle et Genève, et tous les jours, le trésor était en plus grand danger. Je ne peux pas vous raconter les mille nouvelles de rencontres, d'escaramouches, de surprises dans les défilés qui nous venaient jour après jour de là-bas. Le général Nicolas Jordy, notre ancien commandant à Mayence, fit plusieurs beaux coups de filet. Il enleva des canons, des drapeaux, des masses de prisonniers. Malgré l'injustice abominable de cette guerre, j'apprenais toujours avec plaisir que nos anciens se distinguaient. Finalement, Soleure et puis Berne capitulèrent. Le directoire eut ce qu'il voulait. Des convois sans fin roulaient sur la route de Paris. On amena même les ours de Berne. Et c'est depuis ce temps que l'on parle de l'ours Martin du Jardin des Plantes. Toute sa famille d'ours passa chez nous, dans 5 caisses, avec des quantités de voitures chargées d'autres caisses qui ne contenaient pas des ours, je pense. On disait que c'était le citoyen Rapina, beau-frère de notre directeur Roubel, qui les expédiait. Ces choses se passaient en février et mars 1798. Nous avions appris quelque temps avant l'assassinat du général Dufaux à Rome, aux environs du palais de notre ambassadeur Joseph Bonaparte. Le pape avait aussi de l'argent. Berthier marcha sur Rome. On comprit que l'expédition d'Angleterre n'allait plus manquer de rien, que la flotte serait magnifique et que les troupes auraient de tout en abondance. Mais ce que je ne veux pas oublier, c'est la grande joie que j'eus en ce temps de revoir ma sœur Lisbeth et son petit Cassius. Marescot était alors capitaine dans la 51e demi-brigade, où l'ancienne 13e légère avait été fondue le 11 Prairial en 4. Il se trouvait encore en Italie, quand un bataillon de la 51e ayant été détaché à l'armée de Batavie, Lisbeth profita de l'occasion pour venir nous montrer ses lauriers. Un matin, que je garnissais ma devanture de brosse, de faux, de gros rouleaux, de molletons et de flanelle, car alors, outre les articles de mercerie et d'épicerie, nous commencions à tenir aussi les étoffes. Pendant que j'étais à cet ouvrage, regardant par hasard du côté de la place, je vis une grande dame, toute chamarrée de breloques et couverte de falbalas, qui descendait la rue du Cœur Rouge, un petit garçon habillé en hussard à la main. Bien des gens regardaient aux fenêtres, et je me demandais qui pouvait être cette grande dame, avec ses boucles d'oreilles en anneaux et ses chaînes d'or. Il me semblait que je l'avais déjà vue. Elle arrivait ainsi, se balançant et faisant des grâces. Et tout à coup, au coin de la halle, elle se mit à courir, allongeant ses grandes jambes et criant « Michel, c'est moi !» Alors, me rappelant Mayence, la retraite d'Entrammes et le reste, je fus tout secoué. Lisbeth était déjà dans mes bras. Je ne pouvais rien dire, à force d'étonnement. Jamais l'idée ne me serait venue que j'aimais autant Lisbeth et son petit Cassius. Marguerite venait de sortir, et puis le père Chauvel. Lisbeth disait à Cassius « Embrasse-le, c'est ton oncle !» « Oh, Michel, te rappelles-tu le jour du bombardement? Il n'était pas si gros, n'est-ce pas? Et à la retraite de Laval !» Elle embrassa Marguerite, et puis, en riant, le père Chauvel, qui paraissait de bonne humeur. Le petit, tout crépu comme son père, me regardait avec de bons yeux, son petit bras sur mon épaule. Nous traversâmes la boutique, riant et criant, comme des bienheureux. Une fois dans la bibliothèque, Lisbeth, que son grand châle et son chapeau gênaient, les jeta sur une chaise et se mit à rire en disant « Ah, toutes ces fanfreluches, là, voyez-vous, je m'en moque. J'en ai 5 grandes caisses à l'auberge de Bâle, des bagues, des chaînes, des boucles d'oreilles. J'ai tout apporté pour faire enrager les dames d'ici, mais pour mon compte, je m'en moque pas mal. Un bon mouchoir autour de la tête, une bonne jupe chaude, c'est tout ce qu'il me faut en hiver. Ah, par exemple, il me faut mon petit verre d'eau-de-vie. » Et voyant arriver Étienne, qui travaillait derrière au magasin, elle se remit à crier et à s'attendrir. Enfin, c'était une bonne créature, je le vis bien alors. Et je fus content de reconnaître qu'elle ne ressemblait pas à Nicolas. Étienne pleurait de joie. Il voulait courir tout de suite chercher le père et prévenir la mère, mais Lisbeth dit qu'après le dîner, elle irait elle-même aux baraques. Elle voulut voir et embrasser mes enfants, et disait, en parlant de Jean-Pierre, « Celui-ci, c'est le citoyen Chauvel, je l'aurais reconnu entre 1000. Et celle-ci, c'est, je crois, la tante Lisbeth, car elle est forte, grande et blonde. Ah, les cœurs d'ange !» Ces propos nous réjouissaient, et puis on revint dans la bibliothèque, et comme le bruit de cette visite courait déjà la ville, et que beaucoup d'amis et de connaissances venaient nous voir chaque fois qu'un patriote entrait, jeune ou vieux, Lisbeth se mettait à le tutoyer. « Hé, c'est Colin ! Ça va-t-il, Colin ? Tiens, c'est le père Raphaël !» Naturellement, cela les étonnait, mais en la voyant si magnifique, chacun pensait qu'elle avait, en quelque sorte, le droit d'être sans gêne. Le dîner, où l'on vida quelques bouteilles de bon vin, se passa gaiement. Lisbeth nous raconta ses bonnes prises à Pavie, à Plaisance, à Milan, à Vérone, à Venise. Elle éclatait de rire en peignant la mine de ceux qu'on pillait. Et comme Chauvel disait « Diable, diable, citoyenne Lisbeth, vous faisiez une guerre de bandits !»« Bah bah, laissez donc » criait-elle, « un tas d'aristocrates et de calotins. Est-ce qu'on doit ménager ces gens-là ? Ils nous en voulaient tous à mort, les gueux. À chaque instant, ils se soulevaient sur nos derrières. Ah, mauvaise race ! Nous en avons fusillé des moines, des capucins, aussitôt pris, aussitôt passés par les armes. Bonaparte ne connaît que ça. Pas de réflexions inutiles. On te pince avec les insurgés, ton affaire est claire. Un piqué de 8 hommes, un pan de mur, au milieu des champs, et bonsoir. Ça leur coupait drôlement le nerf de la guerre, citoyen Chauvel. Oui, oui, tout allait rondement. Je crois bien, disait Lisbeth en riant. Et puis, voyez-vous, elle faisait le signe d'empoigner et de fourrer dans ses poches. J'avais des poches qui me traînaient jusque sur les talons. Quelquefois, Maresco avait l'air de se fâcher. Il me criait « Mauvaise pillarde !» Je te fais fusiller à la tête de la compagnie pour l'exemple. Mais tout le monde riait. Il finissait par rire aussi. Tiens, est-ce que nous n'aurions pas été bien bêtes d'attendre les fourgons des commissaires, des généraux, des colonels ? Est-ce que nous ne risquions pas notre peau comme eux ? Sans doute, disait Chauvel. Mais le trésor public... Le trésor public ? Oh, quelle farce ! Le trésor public, c'est la poche des réquisitionneurs. Et d'ailleurs, les drapeaux, les chefs-d'œuvre, les millions en tas partaient pour le directoire. C'était la part du général en chef. Vous avez vu les listes ? Oui, nous les avons vues. Eh bien, est-ce que les guerres de Mayence, de Belgique, de Hollande ont rapporté le quart autant ? Lisbeth, après le dîner et le petit verre, ramassa toutes ses fanfreluches et partit avec Étienne et Cassius pour les baraques. Nous les regardions s'en aller de notre porte et le père Chauvel disait « Ah, la grande voleuse ! Mon pauvre Michel, tu peux te vanter d'avoir une drôle de famille !» Il souriait tout de même car Lisbeth racontait ses rapines si naturellement qu'on voyait tout de suite que ça lui paraissait aussi juste que d'avaler un verre d'eau-de-vie. Elle s'en faisait honneur et gloire. Et chose extraordinaire, toutes les dames de la ville qui savaient pourtant bien que c'était la fille du père Bastien des baraques et qui se rappelaient aussi qu'elle avait couru les grands chemins presque sans chemise et les pieds nus, toutes étaient dans l'admiration de ses robes, de ses chapeaux, de ses bagues et de son air distingué. Durant les 8 jours qu'elle resta chez nous, elle changeait matin et soir, mettant tantôt des robes en soie, tantôt en velours avec de nouveaux ornements à l'italienne. Quelques-unes de ces robes étaient aussi raides que du carton, à force de broderie. Elle les avait bien sûr happées dans quelques chapelles de saintes ou dans de vieux châteaux où l'on conservait des habits de noces du temps des anciens papes. Que peut-on savoir ? Plusieurs dames, les plus considérées de Phalsbourg, en la voyant passer, s'écriaient tout bas. « Oh, regardez, regardez ! Oh, la malheureuse ! Est-elle bien ?» Elles n'avaient pas honte d'envoyer leur domestique à l'auberge de Bâle, empruntée à Madame Marisco, telle falbala ou telle coiffure pour avoir la dernière coupe de la grande mode. Lisbeth recevait des invitations de monsieur le maire, de madame la commandante de place. Enfin, on lui faisait en quelque sorte chez nous la même réception que les Parisiens à Bonaparte. Combien peu de gens se respectent assez pour ne pas plier le dos devant ceux qui réussissent. J'en rougissais. Mais ce qui nous faisait plaisir, c'est qu'à la maison, Lisbeth s'en moquait et nous racontait tous ses salamalecs en levant les épaules. « C'est la même histoire partout, » disait-elle. « Quand j'ai mes savates, mon mouchoir rouge autour de la tête et mon jupon le matin, on dit « Voici l'ancienne cantinière de la 13e légère. Et quand j'ai mes breloques, je suis « Madame la capitaine. » Je pourrais passer pour une ci-devant. Ça ne m'empêche pas d'avoir autant de bon sens le matin que le soir. Ah, que les gens sont bêtes. Ils veulent toujours qu'on leur jette de la poudre aux yeux. » Le père dînait tous les jours chez nous avec Lisbeth, le petit Cassius sur ses genoux. Jamais le pauvre homme n'avait été dans un ravissement pareil. À chaque instant, il répétait, les larmes aux yeux. « Le Seigneur a béni mes enfants. Dans ma grande misère, je n'aurais jamais cru que ces changements étaient possibles. » Il regardait sa fille d'un air d'admiration. Tout ce qu'elle disait lui paraissait juste, et souvent il s'écriait. Si la grand-mère Anne et le grand-père Mathurin vous voyaient, ils vous prendraient pour les seigneurs de d'Augsbourg. Oui, père Bastien, lui répondait Chauvel, en lui tendant une prise et souriant de bonne humeur. Tout cela, nous le devons à la Révolution. Elle a passé le niveau partout. Elle a détruit toutes les barrières. Seulement, il est à désirer que les corvéables de la veille ne deviennent pas les maîtres du lendemain. Que ceux d'en bas tâchent de se défendre. Ça les regarde. Nous avons fait notre devoir. La mère, elle, ne voulait plus mettre les pieds dans notre maison. Elle allait voir Lisbeth à la ville de Bâle et contempler ses trésors, levant les mains et criant. « La bénédiction du Seigneur repose sur vous. Tiens, donne-moi ci, donne-moi ça. » Mais Lisbeth, sachant qu'elle voulait en faire cadeau à la Vierge Noire de Saint-Vite, ne lui donnait que de vieilles friperies. Et nous disait le soir, « Si je l'écoutais, tout le butin de la campagne retomberait entre les mains des fanatiques. » Finalement, elle partit. C'était le temps où Berthier venait d'entrer à Rome. Marisco s'y trouvait. Il avait écrit. Lisbeth se repentait d'avoir quitté la brigade. Elle voulait retourner bien vite là-bas, soi-disant pour faire bénir Cassius par le pape. Elle avait promis des reliques à toutes les dames de Phalsbourg, à notre mère, à Dame Catherine, des morceaux de la vraie croix ou des os de saints et de saintes, car la mode de ces objets revenait. La veille de son départ, m'ayant conduit avec Marguerite à son auberge, elle me força d'accepter une grosse montre à répétition que j'ai encore et qui marche toujours bien. C'était un morceau magnifique, une petite couronne gravée derrière, et qui sonnait lentement, comme une cathédrale. Je n'en ai jamais eu d'autre. Comme je ne voulais pas la recevoir, Lisbeth me dit. « C'est Marisco qui te l'envoie, en souvenir de la retraite d'Entrammes, où tu nous as sauvé la vie. » Elle m'embrassait avec attendrissement, et me mettait le petit Cassius dans les mains en s'écriant. « C'est pour lui que tu dois l'accepter, Michel. Marisco m'a dit... « Celle-là, c'est pour ton frère. Je l'ai gagnée à la pointe de l'épée. Elle ne vient pas d'une misérable poignée d'or qu'on porte chez l'horloger du coin. Elle vient du champ de bataille. On l'a payée avec le sang. Répète-lui ça, Lisbeth, et qu'il embrasse le petit. » Alors je pris la montre, et je la mis dans ma poche. Ses paroles me flattaient. Que voulez-vous ? on n'a pas été soldat pour rien. » Elle força Marguerite de choisir parmi toutes ses bagues, celle qui lui plairait le plus. Marguerite me regardait. Je lui fis signe d'accepter pour ne pas chagriner ma sœur. Elle en choisit donc une toute petite, avec une seule petite perle qui brillait comme une larme, mais elle ne l'a jamais portée après le départ de Lisbeth, ne sachant si c'était la bague d'une jeune fille ou d'une femme tuée pendant le pillage. Je m'en doutais et ne lui dis jamais rien sur cela. Lisbeth me remit aussi 100 francs pour le père, en me recommandant de n'en rien donner à la mère, parce qu'elle le porterait tout de suite au réfractaire de Henridorf. Le dernier jour, à 5 heures, étant réunis à la bibliothèque avec Maître Jean, l'étumier et d'autres amis, toutes les caisses étant chargées, Baptiste vint nous prévenir que le courrier était prêt. Les embrassades, les promesses de se revoir, les bonnes espérances et les bons souhaits suivirent ma sœur et Cassius jusqu'à la voiture, qui les prit devant notre porte au milieu d'une foule de curieux. Quelques dames avec leurs maris se trouvaient dans le nombre. On se salua, on se fit les derniers compliments, et Lisbeth et Cassius nous crièrent « Adieu Michel, adieu Marguerite, adieu tous !» Le père tenait encore la main de sa fille. Elle se pencha pour l'embrasser, et lui tendit l'enfant. Et puis le courrier se mit à rouler vers la place d'armes. Bien des années devaient se passer avant de se revoir, et pour plusieurs, c'était fini.